Bonjour à tous en ce mardi 7 novembre. Une petite journée un peu grise, un peu froide. Mais nous allons tenter de vous apporter de la chaleur, du soleil.
Vous nous avez rapporté ça d'Espagne, Michel.
Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez entendu la voix de Louis de Bernice.
Bonjour, bonjour.
Mon compère. Et puis nous avons perdu, j'ai appris qu'on avait perdu Sylvie Dion, qui n'est plus parmi nous. Alors Louis, de quoi sera-t-il question aujourd'hui?
Nous allons parler de sujets variés. L'actualité est riche en insolites. Nous allons parler d'une pyramide de Twitter qui, semblerait-il, ne fonctionne pas parfois. Également de médecins et infirmières connus. Et voilà, bien d'autres insolites, si vous en voulez.
Il y a toujours toutes sortes de choses qui viennent se greffer en cours d'émission. De mon côté, je vais vous amener faire un petit tour en Chine. Un endroit qui n'est pas nécessairement très connu, c'est-à-dire qui est connu pour une seule raison, on en parlera après, qui s'appelle Xi'an. Mm-hmm. C'est écrit X-I-A-N en passant. Hein? Le X chinois, c'est bien ça. Et, une autre chose assez particulière, vous connaissez le commandant Piché, monsieur qui a eu son dernier vol récemment, il y a 2 ou 3 semaines, juste avant que je parte en vacances. Et à certains moments, il raconte différents accidents qui ont eu lieu dans le monde. Et je vais vous lire un compte-rendu d'un accident qui a eu lieu dans le monde, et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi celui-ci. Mm-hmm. Alors voilà, vient-on se greffer toutes sortes d'autres sujets, bien sûr. Alors Louis,
partons en Égypte où je vous emmène, puisque, eh bien, ni plus ni moins qu'une cavité aussi volumineuse qu'un avion a été découverte dans la pyramide de Khéops. Depuis 4500 ans, la pyramide de Khéops en Égypte, une des 7 merveilles du monde antique, cachait une surprise en son cœur. Des scientifiques annoncent, jeudi dernier, avoir découvert une énorme cavité au milieu du monument funéraire qu'aucune théorie n'avait prédite. Cette cavité est tellement grande, c'est comme un avion de 200 places en plein cœur de la pyramide, explique Mehdi Tayoubi, co-directeur du projet Scan Pyramids à l'origine de la découverte. Depuis fin 2015, la mission qui réunit des scientifiques égyptiens, français, canadiens et japonais scrute le ventre de la pyramide en utilisant des technologies de pointe non invasives qui permettent de voir à travers les monuments afin de découvrir d'éventuels vides ou structures internes méconnues et en apprendre un peu plus sur les méthodes de construction toujours enveloppées de mystères. Le monument de 139 mètres de haut et 230 mètres de large trône sur le plateau de Gizeh, dans la banlieue du Caire, aux côtés du Sphinx, bien connu, et des pyramides de Khéphren et Mykérinos. Il y a énormément de théories sur l'existence d'éventuelles chambres secrètes dans la pyramide. Si nous les cumulions toutes, nous obtiendrons du gruyère, s'amuse Mehdi Tayoubi. Mais aucune d'entre elles ne prédisait l'existence de quelque chose d'aussi grand. Selon l'étude publiée jeudi dans Nature, le Big Void, le grand vide, comme les chercheurs ont choisi de l'appeler, fait au moins 30 mètres de long et a des caractéristiques similaires à celles de la Grande Galerie, la plus grande salle connue de la pyramide où il se trouve à 40-50 mètres de la chambre de la reine, au cœur même du monument. Le grand vide est totalement clos. Rien n'a été touché depuis la construction de la pyramide. C'est une découverte très enthousiasmante, note Kunihiro Morishima, de l'université de Nagoya au Japon, partenaire de la mission. Pour débusquer ce joli cadeau, caché depuis le règne du pharaon Khéops, les scientifiques se sont aidés de particules cosmiques, ou plus précieusement, de muons. Quand les muons, des particules élémentaires créées dans la haute atmosphère par des rayons cosmiques, rencontrent de la matière, ils ralentissent puis s'arrêtent. Les chercheurs mesurent donc la quantité de ces particules qu'ils récupèrent derrière un objet à sonder. S'ils constatent un excédent à un endroit, c'est que les muons ont traversé moins de matière, donc du vide. Cette technologie n'est pas nouvelle, mais les instruments sont aujourd'hui plus précis et plus robustes. Ils peuvent survivre aux conditions du désert égyptien, explique Sébastien Procureur du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives français qui a rejoint le projet en 2016. Si les muons ont permis cette découverte dans la pyramide de Khéops, ils ne seront malheureusement pas d'une grande aide pour enfin savoir si le tombeau de Toutankhamon cache celui de la reine Néfertiti. La technique des muons nécessite que les détecteurs soient placés sous la structure à scanner et dans le tombeau de Toutankhamon, nous n'avons pas d'endroit en contrebas où placer les détecteurs, précise le cofondateur de Scan Pyramids. Pour éviter les polémiques, l'existence de cette énorme cavité a été confirmée par trois techniques de détection de muons différentes via trois instituts distincts, soit l'Université de Nagoya, le Laboratoire de recherche sur les particules japonais et le CEA français. Mais si un secret vient d'être mis à jour, un autre reste bien gardé. Pourquoi ce vide et y a-t-il quelque chose dedans? Nous ne pouvons pas savoir si le vide contient des artefacts, car il serait trop petit pour être détecté par ce type d'imagerie, précise Kunihiro Morishima. Et l'équipe n'a pas non plus d'informations sur le rôle de ce vide. Cela pourrait être une succession de chambres accolées les unes aux autres, ou un énorme couloir horizontal, ou une deuxième grande galerie. Plein d'hypothèses sont possibles. Mais une chose est sûre, il sera difficile d'atteindre ce grand vide. On réfléchit à des modes d'investigation relativement légers et non destructeurs, explique le directeur de la mission. Le CNRS et l'INRIA nous ont rejoints il y a un an pour réfléchir à un nouveau type de robot qui pourrait passer par de tout petits trous, ajoute-t-il. Voilà, le mystère reste entier, même si l'on sait maintenant l'existence de cette grande chambre. Un secret quand même bien gardé depuis toutes ces années.
Oui, c'est ça, mais c'est énorme, hein, la grosseur d'un avion à l'intérieur. Hein. Et je disais, en voyage, justement, qu'il y a une controverse sur cette recherche-là. Controverse entre les archéologues et les ingénieurs. Mmh. Les archéologues ne sont pas très chauds à l'idée qu'on pénètre ainsi à l'intérieur de leur domaine. Hein. Une chose qui est frappante sur les pyramides, c'est lorsqu'on va au Caire, c'est de voir la proximité avec la ville. Parce que lorsqu'on voit des photos, ça a l'air complètement isolé, en plein désert. Mais non, c'est juste à côté de la ville. Vous sortez de la ville et vous y arrivez.
Et assez, on n'a pas fini de l'entendre parler.
Ah oui, tout à fait. On passe de l'Égypte à la Chine, qui est assez fascinante aussi. Hein? Xi'an. On entend parler de Xi'an particulièrement pour la fameuse armée de soldats de terracotta. Okay. Il faut dire qu'elle est assez fascinante aussi. Hein? Et on a même promené certains des spécimens à travers le monde. Je crois qu'ils sont venus à Montréal, si ma mémoire est bonne, il y a quelques années. Alors, c'est surtout pour l'armée terracotta qu'on arrête à Xi'an. Mais il y a d'autres atouts appréciables aussi. Et quelque chose d'unique, son quartier musulman, qui regroupe plus de 20 000 huis. Les huis, c'est une communauté de Chinois convertie à l'islam depuis très longtemps. Et ça regorge d'animations, de dégustations, de monuments. Et on plonge dans un souk sino-arabique. Assez déroutant, hein? Alors, la Chine a beau disposer d'un éventail culinaire des plus larges, on sait surprendre par les spécialités offertes le long de l'exubérante artère, l'artère principale qui s'appelle Beiyuanmen. Je m'excuse auprès des Chinois, hein, alors que ça n'est pas nécessairement exact. Où planent toutes sortes de fumées. Vous avez des brochettes de crabes, poulpes, poulets. Et qui danse sur les flammes. Mais étonnamment, quand on passe à la Chine, c'est avant tout le mouton qu'il faut se mettre sous la dent à cet endroit-là. Servi en brochette dans un petit pain, le rougiamo. Le rougiamo, c'est le hamburger chinois qui est incorporé dans une soupe, ou encore on peut l'avoir en ravioli. Vous avez une enfilade de petits restaurants qui servent une nourriture halal. Je vous rappelle qu'on est en Chine. Hein? Et débouchant dans cette bruyante rue dont je viens de vous parler, il y a un couloir de pierre qui vous conduit à la maison de la famille Gao. Et c'est une résidence traditionnelle dont la conservation a de quoi nous étonner. Il y a de nombreuses chambres, pièces ouvertes au public, et ça nous plonge dans le quotidien des nobles locaux d'il y a 4 siècles. Donc, c'est complètement une autre époque. Et l'une des pièces a été aménagée pour y donner des spectacles d'ombres chinoises. Une chose qui fascinait mon enfance, je me souviens des ombres chinoises. Les passants, on peut avaler dans une agréable maison de thé, où vous avez différents crus, dégustations, ventes. Et bien que son entrée soit difficile à dénicher dans l'espèce de labyrinthe du quartier, vous avez la grande mosquée de Xi'an qui mérite une petite visite. Au premier abord, le plan architectural semble nettement chinois. Vous imaginez une mosquée avec des ornements chinois. Mais l'exploration des salles, gravures, ça révèle un étrange mélange entre l'art islamique et la tradition asiatique. Et ça a été érigé au 8e siècle et rebâti au 14e siècle. C'est une immense salle de prière, comme dans toutes les mosquées. Et vous avez d'autres mosquées, une dizaine d'autres même, qui sont plus modestes. On est toujours à Xi'an. Hein? J'ai pas changé de direction d'aucune façon. Et au chapitre des saveurs, on trouve des douceurs, des bonbons au gingembre, des pâtisseries à base de sésame et des noix, des fruits séchés. Côté boisson, nombreux vendeurs proposent d'un des fruits vedettes de la région, la grenade de Lintong, sous forme de jus. J'ai aucun souvenir de la grenade de Lintong. Ça me rappelle aucun souvenir. Ben, jadis, Xi'an constituait le point de départ de la route de la soie. Les artisans, marchands, tout genre, exposent leurs produits sur des étals, des ruelles entières qui sont drapées de tissus et qui implantent une étrange atmosphère moyenne-orientale. Donc, on se promène toujours entre l'Orient et l'Occident. Et la plupart des souvenirs qui foisonnent, étonnamment, sont Made in China. Et ça peut être de tout, hein, des peluches de panda, des babioles, donc c'est vraiment made in China. Et comme dans tout marché public de la sorte, ben, la négociation est souvent de mise, ben, tous les marchés du monde. Hein. À l'instar d'autres villes chinoises, Xi'an arbore deux imposants bâtiments jumeaux, les tours de la cloche et du tambour. On trouve ça un peu partout en Chine, avec des noms semblables. La tour de la cloche. Et la seconde abrite une foison d'instruments de percussion qui marque la limite sud du quartier musulman. Et si la pollution ne se mêle pas de la partie, parce qu'on sait que la plupart des villes chinoises sont extrêmement polluées, particulièrement en raison de l'utilisation constante et continuelle du charbon. Hein. Donc la plupart des villes, et c'est le cas, j'en ai aussi. Alors si c'est pas trop pollué, on peut profiter d'une vue panoramique qui donne une vue d'ensemble sur le souk. Assez étonnant d'entendre ça, hein? La nourriture halal, les souks et d'impressionnantes démonstrations musicales sont organisées quotidiennement dans ces endroits-là. Alors, je vous rappelle qu'on était bien en Chine avec une petite teinte arabo musulmane et avec les souks et la nourriture halal.
Étonnant.
Oui.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though new or far, like a song of love that clings to me. How the thought things to me never before has someone been more unforgettable in every way. Way darling, it's incredible. get up onto.
La chanteuse australienne Sia, qui reprenait ce grand classique de Nat King Cole, Unforgettable, inoubliable.
Qui l'a chanté avec sa fille aussi.
Entre autres.
Pas de son vivant, en passant. Hein? C'est une surimpression. Sa fille a...
On en apprend des choses avec Michel.
Unforgettable. Quel beau titre. Hein?
Toujours. Unforgettable, un inoubliable, peut-être aussi ce qui s'est produit l'autre nuit. Certaines personnes ont cru rêver, et c'était pourtant vrai. Le compte Twitter de Monsieur Donald Trump avait disparu. Ils ont dû se frotter les yeux, se pincer peut-être, mais c'était bien réel. Eh bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Un employé de Twitter, sur le départ, s'est amusé à désactiver le compte du président américain Donald Trump jeudi soir. Il a vite été rétabli au bout de quelques minutes, a annoncé le réseau social. Vers 19h, les visiteurs du compte Real Donald Trump ont ainsi été accueillis par le message « Désolé, cette page n'existe pas ». Twitter avait auparavant annoncé que les comptes de Donald Trump avaient été désactivés par inadvertance à la suite d'une erreur commise par un employé du réseau social. Plus tôt aujourd'hui, le compte Real Donald Trump a été désactivé par inadvertance à cause d'une erreur humaine commise par un employé de Twitter, avait tweeté le groupe. Le compte a été coupé pendant 11 minutes et a depuis été rétabli, avait-il ajouté, précisant qu'une enquête interne était en cours et que les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise pas à l'avenir étaient prises. Mais nous avons découvert à travers notre enquête que cette coupure a été provoquée par un employé de Twitter qui l'a fait lors de son dernier jour de travail, a ensuite révélé le groupe. Le président américain a réagi sur son réseau social préféré vendredi matin, 12 heures après l'incident. Je cite « Mon compte Twitter a été désactivé pendant 11 minutes par un employé voyou. Je pense que les nouvelles sont enfin en train de se répandre et d'avoir un impact », a-t-il décrit. Ce compte personnel, il a aussi un compte officiel qui est POTUS, pour président des États-Unis d'Amérique, et dont il se sert peu, avec seulement, entre guillemets, 20 millions d'abonnés. Son compte, donc, Real Donald Trump, est le moyen de communication de prédilection du président américain, et il compte plus de 40 millions d'abonnés. Il y annonce des mesures, lance des invectives et fait des commentaires, parfois et même souvent désobligeants, sur les personnes, de son camp ou non, n'ayant pas ses faveurs. Il envoie quasi quotidiennement ses messages en 140 caractères maximum. La brève interruption a suscité une controverse sur la sécurité de ce compte personnel et les conséquences potentiellement graves d'éventuels messages faussement attribués au président. C'est choquant de voir qu'un employé quelconque de Twitter puisse fermer le compte du président, Que se passerait-il s'il avait à la place tweeté de faux messages ? S'est interrogé sur Twitter Blake Unchell, rédacteur en chef du magazine Politico. Sérieusement, que se serait-il passé si cette personne avait tweeté à propos d'une frappe nucléaire imaginaire sur la Corée du Nord ? A-t-il ajouté. Nombre d'utilisateurs de Twitter se félicitaient de la fermeture temporaire du compte de M. Trump. Certains estimaient même que l'employé responsable, non identifié, méritait une médaille. Le compte Twitter de Trump a été désactivé durant 11 minutes et j'ai tout à coup pensé que je replongeais dans la vraie timeline où les choses ne sont pas aussi absurdes, a tweeté George Takei, un acteur de la série Star Trek, devenu une personnalité des réseaux sociaux. Le compte officiel de la Maison Blanche n'a apparemment subi aucune conséquence quant à lui de l'interruption du compte personnel de M. Trump. Voilà pour cette petite anecdote qui effectivement aurait pu avoir des conséquences très fâcheuses.
Tout à fait.
Mais il y a en tout cas un ex-employé de Twitter qui est mondialement connu.
Ça réjouit un certain nombre de personnes quand même. Oh, oui. Donc, je poursuis moi-même ma petite incursion en Chine. Je vais même faire un petit tour à Pékin. Ben, évidemment, la Grande Muraille, ben, on la connaît, puis elle a de multiples visages. Ça parle quand même près de Pékin, hein, et c'est en tentant de suivre le troupeau de visiteurs, et je peux vous dire que c'est le cas, hein, qui vont à Badaling. C'est la portion la plus proche et la plus fréquentée, et la moins authentique, hein. Parce qu'il faut dire que la plus grande partie de la muraille a été reconstruite. Et on nous propose de visiter plutôt Mutianyu, qui est à peu près à 70 km. Et la muraille présente deux identités, avec une partie originale et une partie restaurée. Et le cadre naturel est superbe, particulièrement en automne. Et il y a un téléphérique qui va aider les visiteurs les moins mobiles, parce que c'est pas facile de se promener sur la Grande Muraille. Hein. C'est pas oublier qu'on est en colline, en montagne. Hein. Et vous avez, incontournable lors d'une visite à Pékin, la cité interdite, qui n'est plus interdite maintenant. Et ça se révèle dans toute sa beauté lorsqu'elle est admirée de près, mais il est fort intéressant et saisissant même de l'observer depuis les hauteurs de la ville. Et on peut le faire à partir de la colline du Charbon. C'est un parc qui était annexé au palais impérial et ça dispose d'un kiosque qui est juché sur les sommets. Et on a une vue panoramique sur la cité, particulièrement au coucher du soleil. Ça peut être magnifique. Et la place Tiananmen, on la connaît bien. Hein? On l'a vue de nombreuses reprises et pour toutes sortes de raisons. Quelle expérience... Bon, disons insolite que c'est de greffer la file d'attente qui zigzague sur la place Tiananmen. Savez-vous pourquoi? Pour aller voir le mausolée érigé sur les lieux où est exposé le corps embaumé de Mao Zedong depuis 1977. Tout le monde peut y aller. Là, je vais défiler devant le grand timonier, mais il est interdit de s'arrêter. Il faut circuler sans arrêt et on vous laisse savoir très rapidement, je peux vous le dire. Hein. Donc, c'est un mouvement perpétuel et il faut compter environ une heure pour atteindre la salle funéraire. Vous avez, évidemment, les gens offrent des fleurs et les gardiens vous hurlent après aussitôt que vous faites la moindre pause. Hein. Et, c'est pas particulièrement macabre pour dire « j'ai vu Mao Zedong ». On a la même chose d'ailleurs sur la place Rouge à Moscou, où vous avez Lénine qui est embaumé aussi. J'ai l'occasion de voir les deux, aucune ressemblance. vous avez bien sûr les tombeaux des Ming dans le registre mortuaire, ben, à quelques 50 km de Pékin, et ça vaut le coup d'œil. Et on s'enfonce dans les entrailles de la terre pour découvrir un réseau de vastes chambres funéraires où reposent les cercueils de l'empereur Wanli, de ses femmes, nombreux artefacts. Et des stèles, des trônes sont recouverts de montagnes de billets laissé par d'innombrables visiteurs chinois. Et les Chinois sont très superstitieux et à plusieurs endroits laissent des billets comme ça. Et vous avez la voie des esprits, c'est une allée sacrée qui marque l'entrée du site avec une ribambelle de statues d'animaux et de guerriers. Temple du ciel. Après avoir découvert les tombeaux des Ming, on va découvrir ce que ces derniers ont légué au commun des mortels. Et entre autres, rien de moins que le célèbre Temple du Ciel. C'est un ensemble architectural, je pense qu'on peut dire époustouflant, bâti selon des principes géométriques et symboliques. Les Chinois, on retrouve beaucoup de symboles. Autour des pagodes, vous avez un immense parc de verdure où il fait bon épier le quotidien des Pékinois qui pratiquent le tai chi, la danse, le jianzi, violon chinois aussi. Ça, c'est assez particulier, la sonorité du violon chinois, le chant choral. On les trouve un peu partout dans les parcs à travers la Chine, particulièrement le tai chi. C'est magnifique de voir ces gens-là ensemble faire pratiquer le tai chi très tôt le matin. Et vous avez un autre endroit qui s'appelle le marché de Suzhou, qui, quitte à se procurer des souvenirs des babioles, il faut faire dans un cadre agréable. Donc, après avoir visité le palais d'été, qui est magnifique, et on se dirige vers la cour arrière qui abrite le marché de Suzhou, où sont regroupées des dizaines de boutiques le long des canaux. Et très, très agréable. On va y trouver de tout, aussi bien de bon que le mauvais goût made in China. Des lanternes, des vêtements, des statuettes, et un peu de tout. Le cadre est des plus surprenants. On déambule au gré des quais, des ponts à l'ancienne, et censé imiter les antiques galeries marchandes de la ville de Suzhou. C'est un magnifique endroit, Suzhou, en passant. C'est très joli, avec le canal, les ponts, et c'est vraiment très joli. Donc, c'est un petit tour d'horizon de Pékin, et je vous répète une chose que j'ai déjà mentionnée, qui est très, très personnelle, à propos de la Grande Muraille. Vous savez qu'on a dit que la Grande Muraille, on pouvait la voir de l'espace, et je vous affirme, et c'est très personnel, que c'est impossible, parce qu'elle est construite avec les pierres, du milieu. Donc, même quand vous regardez devant vous à 1 ou 2 kilomètres, vous la perdez de vue. Alors, j'essaie de comprendre comment on pourrait l'avoir de l'espace, mais c'est très personnel. Et c'est absolument aucun fondement scientifique, purement empirique. Voilà, un petit tour de Pékin. We'll be right back.
Premier essai. Premier extrait de son plus récent album, Thierry Bruyère, de son album Rêver plus fort, Quand l'avion se pose.
Ah oui.
Et d'avion, justement, parlons-en. Nous avons deux sujets à suivre avec Michel liés à cette musique, cette chanson. Le premier, je commence. Qu'est-il arrivé à l'infirmière arrêtée dans son hôpital et au docteur brutalement expulsé d'un avion? Les affaires Alex Wubbles et David Dao, qui ont eu une très grande résonance sur les réseaux, ont connu des épilogues inversement proportionnels à leur médiatisation initiale. Un médecin expulsé violemment d'un avion quelques minutes avant un décollage depuis l'aéroport international de Chicago, sa place ayant été attribuée à un employé de la compagnie aérienne, une infirmière violemment menottée par deux policiers dans l'enceinte d'un hôpital à Salt Lake City pour avoir refusé de leur donner les prélèvements sanguins d'un patient. Le point commun entre ces deux incidents est qu'ils ont eu lieu aux États-Unis, ont été filmés par des tiers et que les vidéos ont connu une viralité de très grande ampleur. Vous les avez sans doute vus vous-même sur les réseaux sociaux. Les cas du médecin David Gao et de l'infirmière Alex Wubbles n'auraient pu rester que des faits divers à dimension locale. Mais par la force du bouche à oreille sur les réseaux et de leur couverture médiatique, ils sont devenus des histoires connaissant une résonance mondiale. Des débats liés sur les comportements policiers envers les minorités, la pratique du surbooking par les compagnies aériennes, la nécessité pour les policiers de porter des mini-caméras, ont accompagné la couverture bien au-delà des États-Unis. Puis ils se sont estompés. Les épilogues judiciaires de ces deux histoires n'ont pas trop fait parler d'eux, devenant inversement proportionnels à leur médiatisation initiale. Commençons par David Gao. Ce médecin d'origine vietnamienne avait été traîné hors de l'avion de United Airlines par des agents aéroportuaires le 9 avril. Il a eu le nez et deux dents cassées en plus d'une commotion et a de ce fait porté plainte. Des vidéos de l'interpellation avaient été prises par des passagers de l'avion à l'aide de leur téléphone, puis diffusées sur différents comptes sur les réseaux sociaux. Les agents, eux, avaient accusé David Dao de s'être montré agressif et de s'être lui-même infligé les blessures en se débattant lors de l'interpellation. Le 17 octobre, plus de 6 mois après les faits, la victime a obtenu gain de cause avec un accord à l'amiable avec la compagnie aérienne. Le département de l'aviation de Chicago a annoncé le renvoi des deux officiers après une enquête interne dont le contenu a été diffusé par la presse locale et a fait, en France par exemple, l'objet d'une courte dépêche AFP très peu reprise. La vidéo montrant l'infirmière Alex Wubbles se faisant malmener par des officiers de police à Salt Lake City venait, elle, de caméras corporelles portées par des policiers qui l'ont interpellée. Sa diffusion, le 31 août, soit plus d'un mois après l'incident, a été décidé par ses avocats lors d'une conférence de presse. Le 10 octobre, les résultats de l'enquête interne étaient rendus publics et là aussi rapportés essentiellement par la presse américaine. Un des policiers a été renvoyé et l'autre rétrogradé. Deux enseignements peuvent être tirés de ces deux affaires. L'illustration d'une tendance qui est aussi vieille que les médias de masse, mais exacerbée par la dépendance des sites d'information au flux Facebook. Si ces vidéos ont autant de résonance, c'est qu'elles suscitent l'indignation, selon l'expression consacrée, et qu'elles sont rapidement disséminées par le partage sur les réseaux, surtout Facebook, où l'indignation est un impulseur redoutable. Si leurs épilogues en ont moins, c'est précisément pour les mêmes raisons, comme le formulait Christopher Mims du Wall Street Journal. Un vieux slogan journalistique était « Si ça saigne, ça fait la une ». Autrement dit, si quelqu'un a été blessé ou tué, c'est l'histoire la plus importante. Maintenant que Facebook nous donne une part disproportionnée de nos informations quotidiennes, un meilleur slogan serait « Si c'est scandaleux, c'est contagieux ». Au-delà de leur popularité, c'est l'existence même de ces vidéos choquantes qui a pu garantir qu'un verdict équilibré puisse être rendu. Comme l'a dit un des avocats de David Dao au policier qui maintenait qu'il s'était lui-même infligé ses blessures, ne dites pas quelque chose qui est clairement contraire à la vidéo vue par le monde entier. Avant d'ajouter, nos téléphones portables sont le moyen de dissuasion le plus efficace pour faire en sorte que ces mauvais traitements deviennent l'exception. L'infirmière Wubbles, qui ne faisait qu'appliquer le règlement lorsqu'elle a été maltraitée par le policier, reconnaît volontiers que la mini-caméra que l'état de l'Utah oblige ses officiers à porter est la raison pour laquelle elle a pu obtenir gain de cause. Bien entendu, le niveau d'intérêt suscité par ce cas n'aurait pas été le même s'il n'y avait pas eu cet enregistrement. Ça aurait été ma parole contre la sienne, ou leur parole contre la mienne, et je ne pense pas que la vérité aurait pu être dite sans cet enregistrement. Voilà, l'épilogue est donc heureux, ce médecin et cette infirmière vont bien, mais effectivement, Facebook, Internet est prompt à s'indigner, mais pour suivre ensuite les affaires, il y a un peu moins de monde.
Ouais. Je crois que tout le monde connaît le commandant Piché et son exploit d'avoir fait atterrir son avion aux Açores il y a quelques années. Alors, le commandant Piché a rencontré un certain nombre de pilotes d'avion qui ont eu des accidents. Et entre autres choses, il interview ici Claude Lorrain. Alors voici ce que je vais vous dire, c'est le récit d'une catastrophe évitée de quelques pouces. Alors, l'entrevue est menée par le commandant Piché. Alors, M. Lorrain, quand est survenue votre mésaventure? Le 19 février 1979. J'avais 44 ans et je comptais déjà près de 25 ans d'expérience comme pilote. J'assurais la liaison entre Montréal et Sainte-Lucie, dans les Antilles. Je pilotais un Boeing 707 de la compagnie Québec Air. L'appareil transportait 181 passagers et 9 membres d'équipage. C'était une très belle journée. Le vol devait durer 4h30. Donc, s'est-il passé? Tout allait très bien et nous arrivions en Sainte-Lucie. Le copilote procédait aux manœuvres d'atterrissage quand, soudain, à environ 25 mètres d'altitude, l'avion est tombé sur la piste comme une pierre. Cette chute s'est faite, je dirais, en une seconde. La queue de l'appareil nous a entraînés vers le sol pendant que le nez se relevait. Nous avons frappé la piste et l'avion a rebondi environ 15 mètres dans les airs. J'ai décidé de ne pas donner une poussée au moteur et de ne pas tenter de redécoller. J'ai plutôt essayé de garder l'avion sur la piste. Nous sommes donc retombés, mais sous l'impact du deuxième choc, les deux roues du train d'atterrissage avant se sont encastrées dans l'appareil et le nez du Boeing s'est retrouvé directement contre le ciment de la piste. Le bruit de la friction du cockpit contre le sol était assourdissant, sans compter que les alarmes sonnaient dans la cabine. Des étincelles virevoltaient autour de nous. Privé de direction, l'avion glissait à la vitesse de 240 km/h et se rapprochait dangereusement du bout de la piste. Comment avez-vous réagi? Il fallait que je mette fin à la course folle de mon Boeing. J'ai pu rapidement inverser deux des quatre moteurs, un sur chaque aile. Mais l'avion s'en allait de côté et menaçait de quitter la piste et de tomber dans le ruisseau qui l'allongeait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, c'est fini. On va aller dans le ruisseau. Mais je ne pouvais pas rester à rien faire. J'ai donc appuyé de toutes mes forces sur le frein gauche pour ramener le 707 vers le milieu de la piste et éviter que l'on se retrouve dans le ruisseau, ce qui aurait fait de nombreuses victimes. L'avion a poursuivi sa glissade, mais heureusement, ma manœuvre a réussi. Nous avons effectué un virage à 70 degrés. Finalement, l'appareil s'est immobilisé à environ un mètre du précipice donnant sur le ruisseau et à 300 mètres du bout de la piste. Nous venions de déraper pendant 24 secondes sur une distance de 600 mètres, un peu plus, et l'avion se cassait en deux et prenait feu. Avez-vous ensuite procédé à l'évacuation? Oui, j'ai tout de suite demandé au personnel d'évacuer les passagers, mais les appareils de transmission interne situés sous le cockpit étaient détruits. Tous les passagers et tous les membres d'équipage sont donc restés assis à leur place. Pendant ce temps, moi, mon copilote et le navigateur voulions sortir du cockpit, mais la porte était coincée. C'est à grands coups de hache que nous sommes parvenus à en arracher un morceau. Je suis ensuite passé par cette ouverture et j'ai donné l'ordre à l'équipage d'évacuer l'appareil. Les passagers et le personnel ont tous fait preuve de calme, même si certains des toboggans servant à l'évacuation étaient endommagés. Les pompiers de l'aéroport entouraient déjà l'avion. Il n'y a eu aucun blessé. Quant à moi, une fois l'évacuation terminée, j'ai fait le tour du 707 pour m'assurer que tous les passagers et tous les membres d'équipage avaient été évacués. C'est toujours le commandant qui doit quitter l'appareil en dernier. Au cours de cette inspection, j'ai fait une découverte qui m'a stupéfié. Les deux roues avant de l'avion étaient encastrées dans le plancher, tout près du siège d'un passager. C'est un miracle que personne n'ait été blessé. Mais pourquoi l'avion est-il tombé? Tout d'abord, j'ai cru qu'il s'agissait d'un cisaillement du vent, un « wind shear » dans le jargon, qui nous avait rabattus contre le sol. Ce phénomène se produit parfois. Ensuite, l'hypothèse a été émise qu'un réservoir d'eau potable situé à l'arrière aurait été percé et se serait déversé dans la queue de l'appareil. L'eau aurait gelé pendant le vol et une masse de glace de 2 tonnes se serait formée. Le centre de gravité de l'avion aurait été déplacé, ce qui aurait entraîné l'appareil vers l'arrière au moment où nous réduisions la puissance des moteurs en vue de l'atterrissage. Que retenez-vous de cette mésaventure? Je suis très fier d'avoir sauvé la vie de 190 personnes et d'avoir assumé mon commandement dans des circonstances difficiles. Et je me dis que Dieu était avec moi ce jour-là. Alors, la raison principale pour laquelle je vous ai parlé de cet accident, catastrophe évitée, elle est très simple. C'est que lorsque je vous ai dit les deux roues avant de l'avion étaient encastrées dans le plancher tout près du siège d'un passager, ce passager-là, c'était moi. J'occupais le premier siège avant de l'avion et j'ai vécu chacun des moments de ce qui s'est passé ici. Si j'avais eu à raconter ce qui s'est passé, je ne l'aurais pas raconté tout à fait de la même façon. Lorsque M. Lorrain, je ne veux pas nécessairement le contredire, mais parle d'un grave de calme et que tout s'est passé dans l'ordre, je peux vous dire que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Les passagers n'étaient pas assis calmement à leur siège et il ne restait qu'un toboggan qui était accessible. Et le toboggan a été déployé à l'intérieur de l'avion. Et on ne pouvait plus sortir. Alors, ça a été la pagaille que tout le monde se précipite vers l'avant. Et le commandant Lorrain n'est pas sorti du cockpit par lui-même. Il a fallu le sortir. Alors, j'espère que Québec Air... Mais c'était le dernier vol de Québec Air. Vous savez, Québec Air, par la suite, a été... parce qu'il y avait eu un autre... en ancienne Lorette, je crois. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles je vous parlais de cet accident. Premièrement, j'ai mentionné que j'étais passager à l'intérieur. La deuxième raison, peut-être la plus importante, c'est que ça fait 38 ans que ça s'est produit. J'ai vécu cet accident-là et je n'ai jamais arrêté de voyager depuis ce temps. Je me serais privé de quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir voyager à travers le monde. Et ça me permet de dire que, malgré ce qui s'est passé, l'avion demeure le moyen de transport le plus sécuritaire. Et statistiquement, si vous regardez les accidents de la route, quel qu'il soit, que ce soit autobus, train, et tous les modes de transport sont beaucoup plus dangereux que l'avion. C'est que l'accident d'avion est toujours spectaculaire, comme dans le cas présent. Lorsque je vous dis ceci, c'est quand même spectaculaire, les étincelles à l'intérieur, tout ça... Mais si vous regardez statistiquement, pendant qu'on se parle, je n'ai pas les données, j'avais été les chercher à un certain moment donné, les milliers de personnes qui sont dans les airs actuellement pendant qu'on se parle. Et si vous regardez en voiture, le nombre d'accidents. Et vous savez quel est le moment, lorsque vous prenez l'avion, est-ce que vous savez le moment qui est le plus dangereux? Et tout le monde me dit, c'est au décollage, à l'atterrissage. Non! C'est le moment où vous vous rendez à l'aéroport en voiture parce que vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un accident à ce moment-là que d'avoir un accident d'avion. Alors, c'est mémorable et je peux vous dire que 38 ans plus tard, à chaque atterrissage, à chacun de mes atterrissages, je suis extrêmement nerveux. Lorsque je suis revenu récemment, il y avait de très forts vents il y a une semaine ici en ville. Et vous savez que lorsqu'un avion atterrit dans un très fort vent, on sent très bien l'avion bouger. Et c'est comme si le pilote, d'une certaine façon, cherchait la piste. Et c'était le cas. Et je peux vous dire que je transpirais beaucoup. Et je continue à voyager. Et je continuerai.
Continue. continuons à parler des airs et rassurez-vous, Michel, ça va être plus relaxant, plus détendu cette fois-ci. Je vous emmène à Cloud Twitter, l'endroit le plus relaxant d'Internet. Une petite communauté d'internautes partage des photos de nuages sur Twitter ou comment introduire un peu de sérénité dans un fil d'actualité marqué par la violence du monde. Dans une époque où l'actualité est quotidiennement marquée par, malheureusement, les attentats, l'annonce répétée d'une apocalypse climatique prochaine, par la chronique de divers conflits sanglants, naviguer sur Internet peut se révéler très mauvais pour le moral. Mais depuis 2014, il existe un havre de paix dans le torrent quotidien de mauvaises nouvelles et de débats haineux qui se déversent sur notre fil Twitter. Cloud Twitter, le Twitter des nuages. Par ce nom, non officiel, on désigne une communauté informelle d'internautes qui partagent régulièrement des photos de nuages sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un petit groupe qui se répond, toujours dans le même fil de réponse, avec des images prises, surtout aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. Selon Slate, qui consacre un article au sujet en anglais, ces internautes ne se connaissent pas tous entre eux. N'y a-t-il pas quelque chose de beau dans le fait qu'un groupe de parfaits étrangers partage des photos de nuages? C'est peut-être la seule chose résolument positive qui subsiste encore sur Internet. Internet, écrit l'auteur de l'article. Slate a retrouvé la créatrice de ce groupe, Rawa Whale, une éditrice et auteure habitant à Oakland, en Californie. Elle n'est pas la première à avoir posté des photos de nuages sur les réseaux sociaux. Il existe aussi une communauté de Cloudstagrammers, des usagers d'Instagram spécialisés dans ce type de photos. Après avoir découvert un livre sur l'art de repérer les nuages, elle s'est mise à poster ce type d'image plus régulièrement. Les internautes, des amis mais aussi des inconnus, n'ont pas répondu simplement par des retweets ou des mentions « j'aime », mais par leurs propres photos du ciel. Petit à petit, la communauté a grossi. C'était une pause agréable dans le flot monotone des choses négatives que les gens tweetent habituellement, explique-t-elle. Ancienne tweeteuse compulsive, elle songe désormais à quitter Twitter. Mais il y a cette petite tranche de l'internet qui lui plaît encore. Et puis, Cloud Twitter n'est pas le seul espace de détente positive offert par le réseau, rappelle-t-elle. Il y a aussi le mot-clé « Flower Report » pour les gens qui aiment les photos de fleurs. Ou le Twitter Poetry Club, tous les lundis. Les gens du monde entier postent des photos de poèmes qu'ils ont lus. Comme Cloud Twitter n'est pas vraiment une communauté qui rien de vraiment organisé, parfois les gens tweetent beaucoup, parfois moins. Il leur arrive même de tweeter autre chose que des nuages, et au fond, peu importe, puisque l'essentiel est de réintroduire un peu de calme sur Internet sans contrainte. Pour rejoindre Cloud Twitter, vous pouvez répondre au fil par une autre photo de nuage, ou bien pourquoi pas, créer le vôtre.
Ah, je reviens dans le domaine de l'aviation. Vous savez, lorsqu'un avion à réaction laisse une traînée visible, une traînée blanche, qu'on voit assez souvent dans le ciel, est-ce que c'est une opération contrôlée par l'équipage ou est-ce que c'est des conditions météo? Ben, quiconque fait une recherche sur le web sur ces traînées remarquera rapidement une foule d'explications, bon, qui sont parfois assez loufoques. Hein? Certains sites affirment qu'il s'agit de produits chimiques servant à changer le climat. Bon. D'autres y voient une entreprise d'empoisonnement collectif. Et d'autres, une forme de communication secrète de l'armée. Qu'est-ce qu'on peut pas entendre, hein? Ils en trouvent même pourquoi il s'agit d'une façon de stériliser des populations. Assez extrême, hein? Des populations afin de limiter la croissance démographique. La réalité est beaucoup plus prosaïque. Il s'agit de vapeur d'eau condensée, tout bonnement, tout platement. Quand un avion brûle du kérosène, il rejette inévitablement des déchets, comme une voiture. Par exemple, l'azote, le dioxyde de carbone. Et une bonne partie est formée de dioxyde de soufre, d'acide sulfurique et de produits semblables. Il figure également des métaux. Force est d'admettre que c'est un moyen spectaculairement inefficace puisque ses rejets sont très semblables à ceux des voitures. Et de toute cette liste, une seule molécule forme des traînées. C'est l'eau. Tout simplement. Les avions volent souvent à plusieurs kilomètres du sol, à des altitudes où les températures avoisinent les moins 50 ou moins 60, et parfois plus. Alors, presque tout de suite après sa sortie du moteur, ben, la vapeur d'eau gèle et ça forme des cristaux de glace. Et ces cristaux font dévier la lumière du soleil dans toutes les directions et ainsi, ils apparaissent comme blancs. Un peu comme des nuages. Alors, certains jours, ces traces persistent plus longtemps. Il arrive que deux avions volant dans le même coin du ciel en même temps laissent des traînées de longueurs différentes. Évidemment, les sites conspirationnistes vont dire « c'est la preuve que ce n'est pas de la vapeur d'eau ». C'est simplement une question d'humidité. Quand l'air ambiant est très sec, les cristaux redeviennent rapidement de la vapeur d'eau. Quand l'air est humide, il persiste plus longtemps. Et en outre, les avions qui semblent voler dans la même direction, dans la même zone, peuvent en fait se trouver à des altitudes fort différentes et même de plusieurs kilomètres. La perspective fait qu'ils ont l'air à la même altitude. Donc, ils volent dans des conditions d'humidité différentes, variables. Cela dit, les traînées peuvent modifier la température. L'effet n'a pas encore été bien établi. Les études à ce sujet n'arrivant pas à la même conclusion, mais il semble acquis qu'il est minime. Donc, il n'y a pas de conspiration. Ce n'est tout simplement que de la vapeur d'eau.
Nous avons parlé tout à l'heure de Donald Trump, reparlons-en une dernière fois, mais c'est pour s'en moquer un peu à son insu, je vous rassure. Trump perd patience avec les carpes et le web s'en délecte, titre ce petit article. Donald Trump faisait les délices des réseaux sociaux hier, après avoir été photographié, en train de verser tout un paquet de nourriture pour poissons dans un étang de carpes koi, dans un geste d'impatience, durant sa visite au Japon. Le président américain et le premier ministre japonais, Shinzo Abe, avaient commencé par jeter des cuillerées de nourriture dans l'étang au-dessus des carpes rassemblées en nombre. Mais M. Trump a subitement changé de méthode en retournant sa boîte de nourriture pour en vider tout le contenu d'un coup, sous le regard amusé de son secrétaire d'État. La photo du geste de M. Trump a suscité des critiques et des moqueries sur Twitter, où beaucoup ont souligné qu'il n'était pas sain pour les poissons d'avaler autant de nourriture d'un coup. Un internaute ironisait « Trump n'arrive même pas à nourrir des poissons correctement, comment voulez-vous qu'il s'occupe d'un pays ?» Au Japon, rappelons que les carpes koi sont particulièrement appréciées pour leur couleur chatoyante et sont un élément décoratif indispensable des jardins traditionnels à nourrir avec parcimonie.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'être en furie contre le photocopieur? Vous savez, bourrage de papier, message d'erreur. Oui, c'est ça, les caprices du photocopieur vous font rager. Pourquoi pas le démolir à coups de bâton de baseball? Oh, il faut que je fasse attention ici. Hein. Et c'est ce que proposent des entreprises au Canada, dont la torontoise Battle Sports, qui a ouvert une succursale à Montréal et en janvier. 45 $ vous donne droit à 45 minutes de défoulement. Alors, on peut démolir, mais ne faites pas ça au bureau, non, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'intention d'avoir de poursuite. voilà qui met, je crois, un terme à notre émission. Nous espérons vous avoir apporté un peu de soleil. Alors, merci à Louis de Bernice, mon fidèle complice. Et aussi, bien sûr, à Jean-Sébastien La Liberté, la mise en onde, les commentaires et aussi le sourire. C'est notre principal public
toujours
ici, bien sûr. Et merci d'avoir été présent, d'avoir été avec nous et nous vous souhaitons une bonne journée.
À la semaine prochaine.